de la question, Jean-Yves Casgat.
Et si l'on construisait un monde meilleur ? 50 personnalités, parmi lesquelles de nombreux scientifiques, ont accepté qu'une photographe engagée dans l'environnement et la santé réalise leurs portraits et recueille leurs messages pour un monde meilleur. Avec une photo, un regard, un mot, une phrase, un texte, on peut changer le monde. Le combat des scientifiques pour les générations futures, c'est sur RFI, le vendredi. Deuxième partie, toujours avec vous, Sylvia Tostin. C'est un vrai bonheur, comme ça, d'entendre ces voix. Tout à l'heure, on avait Jean-Marie Pelt, après Christian Vélo. Et on commence à mieux comprendre, en fait, comment vous l'avez bâti, le livre. Il y a la volonté de donner une sorte d'extrême rigueur à la vision artistique du portrait. Et en même temps, j'allais dire que ça va plus loin, parce que quand je feuillette comme ça et que je vois ce que vous tirez du regard des gens, de la position des gens, parce que je sais bien qu'une séance de photos, il y a plusieurs essais, on recommence, on essaie de sentir un truc. Et en fait, pour ceux d'entre eux que je connais, la photo, comme ça, traduit bien qui ils sont.
Bon, d'abord, je dois dire que j'ai eu beaucoup de plaisir à les rencontrer, à les photographier. Ce sont des personnes vraiment merveilleuses. Enfin, je pèse vraiment mes mots. Des personnes tellement humaines, avec une sensibilité, douée d'une sensibilité assez exceptionnelle. Et c'est peut-être pour cette raison qu'ils sont écologistes, d'ailleurs. Et voilà, et c'est vrai que je me suis beaucoup appliquée à faire ces portraits. D'abord, j'aime vraiment l'exercice du portrait. Et ensuite, j'ai effectivement réussi, je pense, à sortir... je sais pas, enfin, c'est assez difficile pour moi d'en parler parce que c'est mon exercice et c'est un peu technique et à la fois sensitif. Il émane dans ces photos, quelque chose de très beau, je trouve, effectivement. Ouais.
Bon, je ne vous demanderai pas, sur les 50, lequel vous avez préféré, parce que j'ai l'impression que vous avez préféré tout le monde.
Oui, ça va être difficile. Oui. Je ne peux pas donner mes préférences comme ça.
C'est un effet de masse, en fait. Parce que ce que disait tout à l'heure Christian Vélo, c'est que vous avez fait converger des îlots de résistance.
Oui, voilà, c'était un peu l'idée du livre, c'est de réunir des personnalités dont je trouve chaque combat exceptionnel, et de leur demander de venir dans un même ouvrage, en fait. Moi, c'est ça aussi, c'est vrai que ce que disait Christian Vélo, il disait qu'on était quand même, on n'arrivait pas à rassembler, il y a vraiment un problème. Pourquoi les écologistes n'arrivent pas à rassembler alors qu'ils se battent pour un même but, c'est laisser à nos enfants une planète durable, voire viable, parce que là, je sais même plus si on peut parler de durabilité, il y a un vrai problème, comme disait Jean-Marie Pelt tout à l'heure, il y a urgence, il y a plus qu'urgence, là. Enfin, là, c'est les deux sonnettes d'alarme qu'il faut tirer.
Mais en même temps, si vous titrez « Message pour un monde meilleur », c'est à la fois que vous faites le constat qu'il pourrait l'être, et en même temps qu'il l'est vraiment pas, quoi.
Bien sûr qu'il pourrait l'être. Bien sûr qu'il pourrait l'être. Enfin, c'est une question de volonté politique. C'est une question de. Enfin voilà, moi je suis atterrée de voir que aujourd'hui la politique, on en parle, les politiques l'ont mis un peu derrière et ne s'en préoccupent plus. Enfin, je veux dire même Rio, qui se prépare là. Je trouve qu'on parle pas beaucoup d'écologie et que l'écologie n'est plus effectivement en première place. Comme elle l'était en 2007. Ça me pose vraiment, oui, effectivement un problème. Et j'ai envie encore une fois de dire, n'attendons pas qu'il soit trop tard, quoi.
Alors, dans le livre, le principe, il y a donc des photos, puis il y a des phrases, des messages pour un monde meilleur. Il y a des messages sans citer qui a dit quoi, mais il y a des messages qui vous ont frappé,
Alors les messages, il y a deux types de messages. Je leur ai demandé d'écrire un texte de 20-25 lignes, un texte court, ce qui est un exercice un petit peu difficile pour certains peut-être, parce qu'il faut résumer en très peu de mots des années de combat. Et puis je leur ai demandé aussi d'écrire à la main justement une phrase type citation, voilà, quelque chose de fort qu'ils avaient envie de dire et qui est incrusté sur la photo. Et effectivement, il y a des messages qui sont assez puissants. Vous voulez que je vous en cite un ou deux ?
Oui.
Alors, je peux vous citer, par exemple, celui de Vladimir Tchertkov, qui m'a, moi, personnellement, bouleversé quand je l'ai reçu. Je me suis dit, est-ce que je peux mettre ça ?
Ah oui, je sais pourquoi. Vous y avez fait allusion tout à l'heure. Allez-y, dites-le.
Il dit, Vladimir Tchertkov, qui est journaliste et qui a travaillé sur les retombées de Tchernobyl en tant que réalisateur, et qui écrit « Ils sont bien courageux, les enfants qui osent venir au monde aujourd'hui. Qu'avons-nous fait ?»
Et tout à l'heure, dans la première partie, vous posiez la question en tant que maman. Oui.
Voilà. Mmh. Et c'est vrai que ça, ça a été percutant pour moi, qui ose venir au monde aujourd'hui. Ça questionne quand même. C'est-à-dire quel monde on est en train de leur laisser. Voilà. Effectivement, il y a de moult problèmes. Les pesticides en sont un, les OGM en sont un autre, le nucléaire en est un. Enfin, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Enfin, voilà. Et là, récemment, il y a une étude qui atteste de la toxicité des pesticides sur les abeilles, justement. Et là, on peut pas continuer à dire, on va continuer à autoriser la mise sur le marché de pesticides, etc. Et là, moi, j'ai envie effectivement de donner la parole à des scientifiques qui travaillent sur ces thèmes-là, et dont Gilles-Éric Serralini.
Bonjour, Gilles-Éric Serralini.
Bonjour.
La pollution repose sur la malhonnêteté plus qu'on ne croit. C'est bien vous l'auteur de cette phrase ?
Tout à fait, et j'écoutais ce que disait l'auteur de ce superbe livre, Sylvia Tostin. Et si j'ai dit cela, c'est parce que tous les problèmes qu'elle évoquait, tant au sujet du nucléaire qu'au sujet des OGM, des pesticides, reposent sur l'évaluation de ces produits. C'est-à-dire que pour être mis sur le marché, un jour ou l'autre, ils ont été évalués par des gens qui sont des scientifiques comme nous, dans leur coin, et qui ont convaincu les politiques que ces produits étaient bons à prendre sur le marché. Et je pense que c'est là que réside la plus grande malhonnêteté. C'est dans leur laisser-faire et le corporatisme d'influence qui a formé depuis 30 ans des lobbies qui fait que toutes les analyses de sang des enfants de Tchernobyl sont pas disponibles. Vous savez que selon l'OMS ou selon les associations, on a 40 morts liées ou 50 morts liées à l'explosion due aux irradiations ou à 1 million. C'est complètement anormal. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que l'OMS, l'Organisation Mondiale pour la Santé, ne prend pas en compte l'accumulation de ces hommes, de césium-137, un des résidus de l'explosion à long terme sur la santé. Et c'est simplement cette hypothèse qui fait que les scientifiques l'ont pas pris en compte quand ils se sont réunis, qu'il y a des millions de gens qui sont pas remboursés, qui sont pas encadrés, et qu'on peut recommencer Fukushima derrière. Et pour les OGM, c'est pareil. Vous avez aujourd'hui presque 2 à 3 milliards de personnes qui sont exposées à leurs résidus sur la planète. Hein. C'est une nouvelle pollution vivante qui se multiplie toute seule. Et ils n'ont pas été fichus, ces scientifiques, d'exiger qu'on les teste plus de 3 mois sur des rats avant d'en donner à des patients, des enfants, etc. Et c'est leur laxisme, c'est leur laisser aller, alors que même en 3 mois, on voyait des signes de toxicité sur les foies et les reins, qui est criminel. Et c'est ce que je dénonce dans un prochain livre, d'ailleurs, qui s'appellera « Tous cobayes chez Flammarion ». Donc, pareil pour les pesticides. On entendait Sylvia Tostin nous dire que, on découvre qu'il y a des effets sur les abeilles. C'est pas tant qu'on le découvre, c'est qu'un jour, quand ces OGM ont été évalués, il y a des imbéciles dans ces commissions scientifiques qui ont dit « Mais tout le monde sait que le maïs n'est pas mellifère, le maïs était l'OGM principal en Europe, donc les abeilles, il n'y a aucun risque ». Parce que c'était des généticiens moléculaires qui étaient dans leur idée de promouvoir le développement des biotechnologies. Et ils ne savaient pas que, parce qu'ils n'ont pas été questionnés le moindre entomologue qui s'occupe des insectes, que les abeilles, elles peuvent se servir du pollen du maïs pour aller nourrir leurs larves, et que les effets sur plusieurs générations, comme de tous ces produits, peuvent désorienter les abeilles. Ça, c'est pour les OGM qui contiennent des pesticides, mais c'est vrai aussi pour les pesticides comme le gaucho ou d'autres, qui ont été plus ou moins interdits. Alors voilà, ces débats, en fait, ils tournent autour du laxisme de quelques-uns. Et je crois qu'il faut comprendre et dénoncer cela. Il y a bien sûr un productivisme aveugle, mais il y a de la malhonnêteté.
Gilles-Éric Serralini, vous n'arrêtez pas d'employer l'expression « les scientifiques » comme si vous n'en étiez pas un vous-même. Vous êtes professeur de biologie moléculaire à l'Université de Caen, vous êtes le président du conseil scientifique du CRIGEN, donc centre de recherche sur les gènes. Il n'y a pas les scientifiques et Gilles-Éric Serralini, vous faites partie du corps.
Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, Jean-Yves Casga. Ce qui se passe, c'est qu'il y a les scientifiques qui évaluent dans ces commissions et qui sont majoritaires, mais qui ne sont pas du tout la communauté scientifique, mais qui se font prendre pour elles. Donc je devrais dire ces scientifiques dans les commissions qui évaluent ces produits, par rapidité, je dis les scientifiques, en parlant d'eux, mais j'ai cru l'avoir défini. Mais en fait, c'est vrai que moi, j'ai eu, par exemple, j'ai fait un procès en diffamation à d'autres scientifiques, notamment qui essayent de défendre les biotechnologies comme un lobby. C'est avéré qu'ils avaient des malhonnêtetés. J'ai gagné ce procès. Et il y avait plus de 1200 chercheurs, des scientifiques aussi, de 30 pays qui m'ont défendu dans ce procès. Donc, la communauté scientifique n'est pas homogène. C'est comme si on disait les citoyens, ils sont tous électeurs de personnes différentes là pour les présidentielles françaises. Eh bien, il n'y a pas d'homogénéité, ni même d'hypothèse sûre. C'est pour ça que le principe de précaution doit s'appuyer. C'est ce que montre bien le livre de Sylvia. Moi, j'ai adoré découvrir les personnalités de ces scientifiques, mais aussi des autres, parce qu'il y a plein d'autres personnes dans le livre. Je les connaissais beaucoup de noms, j'en connaissais un certain nombre personnellement, mais on a découvert des détails sur leur enfance, sur leur personne, qui font que ce livre est très chaleureux parce que on se rend compte finalement de ce qui les a amenés au combat pour la vie, car finalement on n'a pas tellement le choix, ou on reste un peu inerte, ou on essaye à sa mesure avec ses proches, ou avec un peu plus de combattre pour la vie dans le monde qui vient.
Eh bien, c'était un message supplémentaire pour Message pour un monde meilleur. Merci, Gilles-Éric Serralini.
Merci à vous, et puis j'embrasse Sylvia Tostin qui a fait un remarquable travail.
Ah, vous avez bien raison de l'embrasser.
Merci.
Je suis pendu à vos lèvres, espérant le mot, espérant le oui qui sauverait ma vie. Je suis pendu au téléphone, mais qu'y a-t-il de plus moche? Un téléphone à phone qui sonne et personne qui ne décroche. Je suis pendu à votre cou, dans le plus beau de mes rêves, mais je ne me réveille jamais près de vous et j'en crève. Je suis pendu sous vos fenêtres, au pied de l'arbre, peut-être demain la petite fleur qui va naître vous racontera mon chagrin. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Je suis pendu à cet espoir que vous m'avez soldé. Je suis presque sur l'autre soir, c'est moi que vous avez regardé. Je suis pendu par les pieds, tout rouge et le souffle coupé. À chaque fois que le hasard me dépose devant votre nez, je suis pendu à la cravate, dans mon costume croque-macabé. Il paraît que vous faiblissez devant les hommes bien habillés. Je suis tendu, c'est aujourd'hui que je viens vous offrir ma vie. Peut-être oserais-je parler à quelqu'un d'autre qu'à mes pieds. C'est quand le bonheur, 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 c'est quand le bonheur. Ce goût amer est venu tapisser ma bouche. Je viens de conquérir son cœur, mais c'est louche. Car qui mieux que ces vieux amants sait qu'on perd l'amour aussitôt qu'on le gagne. Décidément, c'est pas facile tous les jours. C'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur, c'est quand le bonheur,
Autour de la question, Jean-Yves Casga.
Sylvia Tostin, vous avez quand même des amis qui vous aiment, hein, parce qu'en écoutant tout ce qu'on a entendu sur vous et sur votre message pour un monde meilleur. Alors, honnêtement, j'ai le livre, je l'ai lu, ils ont assez raison. Vous avez réussi une sacrée performance. C'est un livre qui est vraiment à part. En fait, c'est pour ça que vous êtes ici. C'est un livre... comme j'en ai pas encore vu, quoi. C'est une autre façon de présenter les problèmes, c'est une autre façon de faire parler la science. D'ailleurs, on voit bien que c'est l'humanité qui sort en premier, quoi. Oui, il y a l'urgence, oui, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est d'abord l'humanité, quoi.
Oui, oui, enfin, que dire à ça, merci pour les compliments, et les vôtres et ceux des personnes qu'on a entendues au téléphone et qui ont contribué et participé à ce livre. Ce livre, en fait, je l'ai voulu un petit peu conceptuel. Je vois autour de moi des personnes qui ne prennent pas le temps de lire les ouvrages que moi j'ai lus, à savoir des 300 pages sur les pesticides, des 500 pages sur le nucléaire, enfin, et j'en passe. Et je me dis comment toucher ces personnes. Et c'est comme ça que je suis arrivée à imaginer en fait un ouvrage qui parlerait en très peu de mots, qui dirait en très peu de mots les choses et
essentiel en fait.
Essentiel, voilà, essentiel. Et effectivement, ça m'intéressait aussi de savoir d'aller un peu plus loin dans la rencontre avec ces personnes qui sont dans ce livre, enfin d'aller plus loin que la rencontre photographique. Et je leur ai demandé aussi de me raconter qu'est-ce qui avait fait que c'était engagé, en fait. Quel avait été le déclic de leur engagement. Et là, les réponses sont vraiment belles aussi, parce qu'on sent effectivement des personnes extrêmement sensibles et qui ont un vécu derrière et une conscience, quoi.
En fait, on les découvre, on a une approche, on va dire, bien résumée, mais c'est pas résumé comme quelque chose de rapide, hein, c'est plutôt synthétisé. Et puis, il y a des aspects pratiques, vous citez les livres qu'ils ont déjà écrits, les études, etc. Enfin, il y a un site d'ailleurs sur lequel on peut et commander le livre et avoir un peu d'informations.
J'ai fait une bibliographie en fait des publications de chaque personne qui participe à ce livre et qui a écrit des livres ou fait des films. Donc on peut retrouver leur si on veut aller plus loin dans les lectures. Et puis pour se renseigner un petit peu sur ce livre et on peut aller voir sur le site du livre Message pour un monde meilleur en tapant dans les moteurs de recherche Message pour un monde meilleur, on tombe dessus. Ou bien sur le site de l'association éditrice qui est mamm.fr.
Et MAM, ça veut dire quoi ?
Mouvement artistique pour un monde meilleur. Tout un programme.
C'est artistique. Alors, il y en a un qui n'est pas artiste parce qu'on a un dernier scientifique avec nous. Encore que les scientifiques de ce niveau-là, ils ont toujours une petite fibre artistique. Dites-moi, Dominique Bellepomme, cancérologue, vous avez une fibre artistique ?
Oui, mais enfin, si vous voulez, je pense qu'il ne faut pas trop mélanger la science et puis l'art. C'est deux choses différentes, complémentaires, mais différentes. Alors oui, moi, en ce qui me concerne, j'ai une fibre artistique, puisque, si vous voulez, j'ai fait 20 ans de piano, d'orgue, avec le père de Marie-Claire Alain, et que par ailleurs, je fais de la peinture à l'huile. Donc tout ça, c'est un côté un peu privé, mon jardin secret. Voilà. Le reste, c'est la science. Et la science, c'est quelque chose tout de même de très rigoureux et un peu sec, malheureusement. C'est de la logique pure. Et il y a une esthétique, il y a une harmonie en science aussi, mais les facultés esthétiques n'ont pas droit de cité dans la logique scientifique.
En même temps qu'il faut quand même pas mal de rigueur dans la musique, hein. C'est pas.
Oui, dans l'écriture musicale, oui, la musique, mais enfin dans l'interprétation, c'est l'émotion, c'est d'autres capacités, je dirais, de notre cerveau.
Mais l'émotion, vous la vivez depuis longtemps, Dominique Bellepomme, parce que vous médiatisez beaucoup vos combats, on va dire, dans les rapports entre la santé et l'environnement.
Bien sûr, c'est mon combat en tant que médecin. À chacun son champ d'investigation et son combat. Et ce qui est tout même très, très intéressant dans le livre, donc, qui est l'objet de cette interview, c'est que je crois que le plus important, c'est que ça rassemble des compétences différentes qui se rejoignent toutes.
parce que la santé est un angle, je dirais, de compréhension du monde et qui nous concerne directement, puisque c'est vraiment tout de même notre vie qui est l'objet des recherches qui sont faites dans le domaine de la santé et l'environnement. Mais on retombe là aussi sur l'environnement. Comme, si vous voulez, Jean-Marie Pelt, par exemple, qui, lui, en tant que botaniste, se trouve également confronté à des facteurs environnementaux, climatiques et autres. Bon, comme Gilles-Éric Séralini, dans le domaine de son combat pour les OGM. Donc tout ça, ça se rejoint, si vous voulez, avec une donnée fondamentale qui est, je crois, propre à notre siècle-là, qui est celle de l'environnement. Car lorsqu'on essaie de voir ce qui s'est passé avant, aux origines de l'humanité, nous sommes maintenant dans une situation absolument inédite. Et cette compréhension du monde que nous devons avoir aujourd'hui, qui est celle que nous sommes consubstantiels de l'environnement, qu'il soit minéral, climatique, mais également, bien sûr, biologique, végétal ou animal. Donc, c'est ça. Et nous sommes, si vous voulez, à la fin de cette chaîne d'événements qui font que nous pouvons vivre en tant qu'organisme complexe.
Pourquoi participer à Message pour un monde meilleur ? C'est parce que vous êtes désespérément optimiste ?
Je suis désespérément optimiste, oui, ça c'est vrai, mais tout en étant réaliste. Et ce livre est un premier pas qui va dans le bon sens, c'est le rassemblement. Aujourd'hui, nous avons des leaders scientifiques, des leaders d'opinion qui œuvrent chacun de leur côté parce qu'ils sont convaincus, et avec juste raison, de la gravité de la situation actuelle. Et malheureusement, si vous voulez, il n'y a pas suffisamment de rassemblement entre eux, d'union entre eux. On le voit dans la campagne présidentielle actuellement, où malheureusement, l'environnement et la santé, par exemple, ne sont pratiquement pas à l'ordre du jour des candidats, quels qu'ils soient. Donc je crois qu'il faut absolument que les gens convaincus se rassemblent dans un vaste mouvement où on fait un petit peu taire les égos de chacun de façon à faire que ce message environnementaliste soit réellement pris en considération par nos concitoyens et ne soit pas un peu maintenant devenu comme quelque chose, une espèce de leitmotiv, le développement durable, bon, très bien, et c'est un peu maintenant quelque chose dont on s'habitue trop facilement, alors que la situation réelle existe, et malheureusement, nos politiques ne sont pas à la hauteur du défi que nous avons à relever.
Dominique Bellepomme, rapidement, c'est pour ça que vous avez créé un rassemblement récemment, non ?
Oui. C'est la raison pour laquelle nous avons créé le Rassemblement pour l'environnement, la santé et la solidarité, RE2S, qui maintenant non seulement rassemble un certain nombre de leaders scientifiques, mais aussi autres. Et là, il y a une place pour les artistes, il y a une place également pour les philosophes et les intellectuels de toutes compétences, mais également des politiques. Car aujourd'hui, l'environnement, en ce qui me concerne, la santé, ce ne sont pas des valeurs plus de droite que de gauche, que du centre, etc. Ça nous concerne tous, quelle que soit notre sensibilité et couleur politique. Et je pense qu'il faut prendre tous ceux qui sont convaincus de la gravité de la situation actuelle pour les rassembler et faire en sorte que on n'ait pas ce type de campagne actuelle qui occulte les véritables problèmes de santé. Et très rapidement, il faut savoir qu'il y a 9 millions de nos concitoyens, c'est-à-dire un Français sur 6 qui est reconnu en tant qu'affection longue durée ALD par la Sécurité sociale, autrement dit atteint d'une affection chronique sévère. Or là, qui parle de ces 9 millions de citoyens qui sont malades, handicapés ou autres ? Merci à Sylvie d'avoir fait ce livre qui va dans le bon sens et je pense qu'il faut l'encourager à poursuivre.
Merci professeur Dominique Bellepomme. Sylvia Tostin, encore un fan, hein, Dominique Bellepomme, message pour un monde meilleur. On arrive à la fin de l'émission. Si vous étiez une fée et que vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi ?
Écoutez, je serais peut-être un peu violente.
Ah, une fée, c'est gentil.
Oui, moi je serais une fée ferme, je ne sais pas.
Ah, une fée ferme, d'accord. Pas carabosse, hein.
Voilà, mais je dégagerais ceux qui en ont rien à foutre de la santé, enfin, je vais être très crue, hein, qui se contrefichent de notre santé, de l'environnement, et qui sont uniquement intéressés par tirer du profit. Et c'est ça qui pose vraiment problème, c'est que c'est ces personnes-là qui dirigent le monde aujourd'hui, et c'est pas seulement en France, mais c'est un peu partout. Donc voilà, et puis comme le disent Bellepom, voilà, tout, le professeur Bellepom, Serralini, Christian Vélo, etc., rassemblons-nous, quoi. On est extrêmement nombreux, qu'est-ce qu'on attend ? Voilà.
Et j'ai un petit scoop pour vous. Ça n'est pas évidemment dans les références de l'index Message pour un monde meilleur, mais Jean-Marie Pelt vient de sortir un bouquin qui va beaucoup vous plaire. Pour en finir avec les pesticides chez Fayard. Alors ça, c'est le sous-titre, le titre fort. Et sinon, il y a un titre plus générique. Cessons de tuer la terre pour nourrir l'homme. Hein, c'est vraiment, hein, c'est votre prochain, je sens qu'il y a un nouveau message pour un monde meilleur qui est en train de naître, là. ça vous plaît, ça?
Oui, bien sûr que ça me parle.
Merci donc, Sylvia Tostin. Merci Jean-Marie Pelt, Gilles-Éric Serralini, Christian Vélo, Dominique Bellepom. Merci à Sophie Janin qui réalisait cette émission. La science, ça continue dès lundi sur Radio France Internationale avec Caroline Lachowski. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera le même jour et la même heure.